Là, c'est avec joie qu'on peut prendre ce moment, frères et sœurs, pour poursuivre notre étude de la lettre aux Colossiens. Une lettre vous l'avez vu déjà marquée par ses chants, vous l'avez vu marquée par ses dernières semaines d'études, une lettre où Paul met en avant la pleine suffisance de Christ. On a vu, au travers ce début, comment Paul va cibler le besoin nécessaire de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, au travers une église, on va le rappeler, qui pouvait être attaquée, qui avait plusieurs soucis. Parce que dans le monde qui nous entoure, on le voit souvent, on va rencontrer des gens qui sont passionnés. Alors, je sais pas vous, moi j'en ai rencontré des gens passionnés. Et les gens passionnés, parfois, ils vivent de manière excessive leur passion. Il y a des personnes, vous les croisez dans la rue, vous savez ce qui anime leur fond de leur cœur. Alors, soit parce qu'ils vont porter un t-shirt, soit parce qu'ils vont, en discutant, ils vont être pleins d'entrain dès que vous trouverez ce qui les motive. Une vie centrée sur quelque chose. J'avais une nièce qui était centrée sur un groupe de musique, elle en parlait tout le temps. Tout le temps, au point que je les connaissais, je finissais par les connaître. Et elle me disait les noms, comme c'est un groupe coréen, bref. Et j'étais là, je fais, mais arrête un peu. Et c'était en boucle, c'était son truc, c'était, on voyait la différence. En tout cas, on pouvait pas dire, tiens, elle ne connaît pas ces gens-là. Elle avait vu ces groupes, elle avait changé. D'autres aussi. Des gens qui gagnent au loto, qui gagnent d'un coup une grosse somme, on voit le changement. Leur vie va changer. Il y a eu un impact dans leur vie et, leur expérience de vie va être renouvelée à la lumière de quelque chose. Il y a quelqu'un qui disait, moi, vous le verrez pas. Si je gagne au loto, vous le verrez pas. Il y aura peut-être des signes et ils jettent des poubelles avec un hélicoptère. Je voulais retrouver la vidéo, mais je l'ai pas retrouvée. Je trouvais ça assez amusant. Il y a quelqu'un, il est en hélicoptère, il va sortir ses poubelles avec. En fait, c'est juste pour dire qu'il change. Ça change, sa vie a changé par rapport à ce qu'il a gagné. Et je me suis dit, par rapport à ce que Paul nous dit, et vous, et nous, et vous, Colossiens, si Dieu a changé ta vie en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il le montre? Qu'est-ce qu'il le montre? Comment ton quotidien est impacté par Jésus-Christ? Et la différence doit être visible. Et là, c'est ce qu'il appelle à vivre autrement. C'est le titre de ce matin sur le passage que nous voyons de Colossiens 3, 1 à 8. On a vu tout ce que Paul a développé, et il est en train de maintenant dire aux chrétiens de Colosse, on va les exhorter à vivre autrement. Il dit, si Jésus, tout ce qu'on a vu en Jésus, ça a changé vos vies, faut que ça se voit maintenant. Faut que vous soyez ceux qui montrent ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Un prédicateur disait, je connais beaucoup de chrétiens sous-marins. C'est les chrétiens ils émergent seulement le dimanche, et tout le reste de la semaine, on fait pas la différence. Ils se comportent comme le monde, et tous les dimanches, ils viennent respirer un petit peu. Il dit, ne soyez pas de ceux-là, mais soyez tous les jours un chrétien. Et donc, Paul va poursuivre dans Colossiens 3, 1 à 8, un appel à vivre différemment. Et avant de lire, justement, prier. Merci Seigneur, parce que tu nous appelles à lire ta parole. Et que cette parole puisse nous impacter dans nos vies, puisse nous impacter dans ce qu'on a besoin d'entendre encore ce matin. Tu veux nous appeler, nous exhorter au travers ces lettres qui ont été écrites il y a plusieurs siècles. Tu vas encore nous impacter parce que ta parole est vivante et que les problématiques que les Colossiens rencontraient sont les mêmes que nous. Parce que nous sommes faits de la même faiblesse et nous avons rencontré ce même Sauveur et Seigneur en Jésus-Christ. Alors puisses-tu nous exhorter, nous accompagner, nous encourager là où nous en sommes. Amen. Donc Colossiens 3, 1 à 8, il va dire « Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez donc les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Attachez-vous aux réalités d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Dieu, avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, vous étiez parmi eux. Vous viviez parmi eux. Vous marchiez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors, on a vu l'épître de Colosse, la lettre aux Colossiens. C'est une lettre qui place la centralité de Christ sur cette ville de Colosse. On voit cette ville, elle était entourée de trois grandes villes, la Odyssée, Hierapolis et Colosse. Et Paul n'a jamais vu ces églises, Donc il va dire, il écrit à Colosse et à la fin il dit, faites passer la lettre que je vous ai écrite à Laodicée, et Laodicée vous passera la lettre, on n'a pas cette lettre. En tout cas, il s'inquiète du climat qui pouvait arriver sur ces églises et il va les encourager puissamment à centrer leur vie sur Christ. Et il écrit ça depuis sa prison, hein, la première arrestation. Nous avons vu hein, que depuis le début de cette lecture, Paul il passe l'œuvre de Jésus-Christ, sa vie, sa personne et son œuvre au centre de la foi. Et il dit « ne déviez pas ». On l'avait vu avec Michel, on l'avait vu avec Samuel. La déviation, le rajout à quelque chose à la fois, le risque de toutes ces mentalités et toutes ces spiritualités qui existaient autour des petites églises était un grand risque. Et Paul est en train de leur dire « maintenant, il faut faire la différence ». Donc Paul les encourage à vivre différemment. Il va dire, voilà, hein, n'oubliez pas, il y avait des formes de l'extérieur de l'église, hein, toutes ces formes qui pouvaient être le culte des anges. Et avec Michel, on avait vu ensemble que de l'intérieur, ça pouvait venir, un espèce de légalisme qui venait d'autres, de l'intérieur même de l'église, hein, des personnes qui avaient été convaincues par Christ, mais qui voulaient rajouter peut-être leur passé en ajoutant ce qu'ils connaissaient, un espèce de légalisme qui étouffe l'œuvre. Et il dit, ben maintenant que vous savez tout ça, maintenant que je vous ai décrit comment faire attention, il commence ce chapitre 3. Si, donc, il va dire, maintenant que si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai décrit, je vous fais cette lettre d'encouragement pour vivre votre nouvelle vie en Christ, et cette nouvelle vie en Christ, elle change. Stephen nous a rappelé que ce qu'ils attendent avec son épouse, c'est pas une chenille qui va sortir du cocon. Ça sera autre chose. Il y aura bien un changement. Quand on est changé, il y a quelque chose qui doit changer. Quand on évolue, ça doit changer. Et c'est ce que Paul va encourager maintenant. Il va vous dire, changez. Changez désormais. Christ seul. Christ comme modèle. C'est la première partie. Les versets 1 et 2. Il va leur dire, c'est Christ comme modèle. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Christ comme modèle. Et c'est lui qui est, celui qui change. Je vais dire, voilà, maintenant vous avez qui est Christ, vous devez marcher comme lui. L'apôtre, hein, il va rappeler que cette identité, elle est nouvelle. Il dit aux chrétiens de Colosse, vous êtes des personnes nouvelles. On le verra après. Hein. Il dit, Christ... C'est vous, c'est lui qui vous a changé de ce que vous étiez, c'est grâce à lui, c'est par son œuvre, c'est par tout ce que j'ai présenté que vous êtes maintenant ces gens différents. Il dit, vous avez la pleine liberté. Vous avez tous ces courants religieux qui enferment, hein, on l'a vu ensemble, mais en Christ, vous avez cette liberté de la personne de Jésus-Christ qui vous libère. Ça vous donne pas le droit de tout faire, hein, c'est ce qui va venir. Mais il dit, attention, ne vous mettez pas sous un joug autre que Jésus-Christ. L'apôtre, il dit, voilà, regardez à Jésus-Christ. Regardez à Jésus-Christ. Il leur dit, ne tournez pas des regards sur ce que vous êtes autour de vous, mais regardez à Jésus-Christ. Et il est où, Jésus? Il dit pas regardez autour de vous, il dit, il les appelle à regarder. Alors, c'est des images, hein. Les Colossiens se baladaient pas comme ça. Mais il leur dit, maintenant, ne regardez plus à tout ce qui est autour de vous, à toutes ces vaines idoles, à tous ces vains courants de pensée. Mais regardez à Jésus qui est assis à la droite du Père. Il est en train de dire Jésus est ressuscité et il est vivant. Il dit il est assis. Et pas il sera assis ou il était assis. Pour Paul, c'est une réalité tangible. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et c'est de là-haut qu'il règne. Et il dit si vous voulez suivre Christ, il faut regarder où il est. Si quelqu'un a envie de voir, s'il aime bien une star ou quelque chose, il va aller voir où est la personne, il va pas aller ailleurs. Si on est en tant que parent et nos enfants viennent, ben ils vont venir trouver leur père. Ils ont un besoin. Ils vont pas aller chercher, surtout quand ils sont plus petits, ils vont pas aller vers quelqu'un d'autre. Quand ils ont besoin, ils vont seulement trouver les parents. Et là, c'est ce qu'il dit, regardez à Christ. Et Christ, il est où? Il est ressuscité et il est au ciel. Il siège. C'est une image que Paul décrit pour dire, débarrassez-vous de ce qui pourrait vous encombrer. Ne regardez pas à ce qui est là, regardez à ce qui vient. Et il dit, demandez à regarder. Regardez vers Christ. Ne répondez plus aux valeurs purement humaines autour de vous, mais aux valeurs que Christ vous donne. Et si on prend le temps de contempler Christ, ben c'est plus facile pour vivre sa vie chrétienne. C'est plus facile. Parce que si on commence à regarder nous, on commence à avoir peur. C'est comme souvent on dit, pour les gens qui ont le vertige, on dit « regarde pas en bas ». Et souvent, tant qu'ils regardent pas en bas, ça va. Mais dès qu'ils regardent, ils sont paralysés. Puis ils ont fait un chemin et ils s'arrêtent. Parce que si on regarde des fois à nos forces, à nos propres faiblesses, je veux dire, on essaie de faire par nos propres forces, ben on est paralysé. Il dit « regardez, regardez ». On a aussi l'exemple de Pierre. Pierre qui commence plein de fois, ben « j'avance, si c'est toi, je viens ». Puis après, il se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Et il regarde au monde. Et il commence à s'enfoncer. Il avait la foi, c'est sûr. Hein. Mais voilà, poursuivons. À marcher. Et en regardant à Christ, il dit, s'il est ressuscité, vous pouvez regarder à Christ et par ses valeurs, vous allez être encouragé parce que c'est des choses qui viennent d'en haut, c'est lui qui va vous les donner. Et donc les vérités tordues, vous allez pouvoir résister. Il dit, ne vous attachez pas à tout ce qui peut venir des hommes qui ne regardent pas Christ. Si Christ n'est pas au centre de quelqu'un qui vient vous parler, eh bien méfiez-vous de la parole qui pourra dire, même s'il vient de la part de Dieu. C'est comme ça qu'il regardait, il dit voilà, tous ceux qui parlent au nom de Jésus-Christ vont centrer leurs pensées sur lui. Et Paul, il n'est pas en train de dire, faut que vous fassiez plus rien, hein, parce que si on peut lire ces versets, on dit ne vous attachez pas aux choses terrestres, donc il y en a qui avaient pris ça au pied de la lettre et puis qui repeignaient pas les volets de leur maison, donc c'est des choses terrestres, on fait plus rien, on s'intéresse plus à rien, on s'assoit et on regarde Christ dans la contemplation et on attend que le monde passe. C'est pas ce qu'il est en train de dire, Paul, il le lit à ce qui a été dit avant. Il dit, attention, les gens qui peuvent venir déformer, hein, il dit, si, donc. Donc il va le lier à ce qui était dit avant. Nous, c'est coupé dans nos Bibles, mais faisons attention à pas détacher les versets de ce qui est dit d'avant. Il est en train de dire, si donc vous êtes ressuscité en Christ, vous n'avez pas à avoir peur de toutes ces religions, toutes ces pensées, tout ce légalisme, parce que vous savez où, regardez, vous avez un modèle de vie en Jésus-Christ. Il dit pas, coupez-vous du monde et allez vivre ailleurs. Et ne faites rien de ce qu'il y a sur la terre. C'est un courant de pensée qui existait, donc c'est pour ça. Il y a des gens, ils faisaient plus rien, ils disent, oh ben, Christ, nous désintéressons-nous des choses du monde, donc on fait plus rien. Non, ça serait à l'inverse de ce que dit l'évangile, de se soucier de l'autre. Donc, il nous dit pas de vivre dans une communauté isolée, fixant le ciel dans l'attente d'un signe. Il dit non, voilà, il dit, attention, vivre en tant que chrétien, c'est vivre dans le monde, mais en regardant ailleurs. C'est ça qui est le plus difficile. Et c'est pour ça qu'il leur dit, regardez à Christ, il règne encore aujourd'hui, c'est toujours du présent, et il leur dit, en lui, vous avez le modèle. Et c'est aussi une espérance, c'est pas qu'un modèle, c'est le deuxième petit point. Versets 3 et 4, il dit, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie apparaîtra, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Et ça, c'est une réalité puissante, un encouragement pour les Colossiens. Nous, on a du mal des fois à imaginer cette église des premiers temps. Hein. C'est des poignées de chrétiens perdus dans un monde de paganisme. On a l'impression, quand on lit la Bible, que c'est des grandes assemblées. Il y a des gens qui ont fait des recherches, qui sont beaucoup plus calés que moi. Mais j'ai lu leur livre, le gars, il dit au début, c'est 500 chrétiens au temps de Paul. Hein. 500 chrétiens non-juifs, parce que des juifs, il y en avait un peu plus. Donc, ils s'adressent à 500, peut-être 1000 chrétiens non-juifs. Peut-être 10 000 chrétiens juifs, donc on arrive à peu de chrétiens, dans un monde qui, à l'époque, qui comportait des millions de personnes. Et il est en train de leur dire, vous allez être différents, et c'est cette différence que les gens vont voir à l'extérieur, ça ne doit pas être facile. Aujourd'hui encore, nos frères qui sont persécutés, c'est pas facile de porter la croix de Jésus dans un monde hostile. Alors il leur donne cette espérance. Il leur dit, vous n'êtes pas seul, il dit, en effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Et quand Christ, notre vie, apparaîtra, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Il leur dit, vous n'avez pas à avoir peur de ce qui va venir. Vous n'avez pas à avoir peur de ce qui va venir parce qu'il y a une espérance qui dépasse cette vie qu'il a. Il dit, je sais que c'est pas facile, il y a des risques partout. Paul lui-même écrit depuis une prison, donc il sait très bien les risques qu'on encourt. Dans sa vie d'apôtre, il a plusieurs fois été en prison, plusieurs fois été battu, et lui-même le dira, hein, tout ce qu'il a vécu, mais il avait cette espérance de s'attendre au meilleur en Jésus-Christ. Et même si à Colosse, cette église paraît toute petite, peut-être en proie aux doutes, peut-être en proie aux assauts des courants extérieurs, on l'a vu, hein, avec ce légalisme, ce gnosticisme, cet ascétisme, tous les trucs en isme qui viennent perturber, des pressions extérieures, il dit, chrétien de Colosse, pour le moment c'est difficile, mais votre vie est cachée en Dieu, par Jésus-Christ, et ça c'est beau. Il est en train de dire, vous avez une vie qui est protégée avec Christ et en Dieu. Vous n'avez, entre guillemets, rien à craindre. Alors oui, c'est difficile la vie, mais il dit, vous avez une espérance qui dépasse cette vie. Vous avez quelque chose. Vous accrochez-vous à cela quand la vie est difficile et à cette espérance. Quand Christ reviendra, tout changera. Alors c'était aussi l'aspiration de l'apôtre, on le voit quand il écrit, et là quand il écrit, il se met avec. Il était dans le « vous êtes ressuscité en Christ, votre vie est cachée », mais quand il dit « quand Christ, notre vie », parce que pour Paul, Christ est aussi sa vie, apparaîtra, alors vous aussi, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il est en train de dire « ça c'est notre vie, Christ, non, on a un point commun, on a un socle commun, que j'espère aussi ce matin tous ensemble, Christ est notre vie ». Et il dit « quand lui va apparaître », et c'est la promesse de l'espérance du retour qui était déjà espérée au temps des Colossiens. Donc vous imaginez le temps, l'attente de l'Église. Parce que si on avait dit aux Colosses, en 2026, ils seront toujours pas revenus, il n'y aura plus d'espoir. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de savoir l'heure et le jour, mais de rester et de résister. Et c'est ce qu'il leur dit. Il dit « Christ viendra, et là ça va changer. La vie que vous avez là, elle est cachée en Jésus-Christ. » Lui-même a vu une expérience plutôt masquée quand il est venu sur terre. Il n'a pas été couronné roi. Il a évité tout ce qui était des courants de la vie. Il n'a pas cédé aux tentations, on allait dire aujourd'hui, du bling-bling et du clinquant. Il est resté fidèle. Une prière disait, il est resté fidèle au point de boire cette coupe pour laquelle il était venu. Et c'est dans cette imitation de vie aussi qu'il nous demande de vivre, parce qu'un jour nous partagerons sa gloire. Et il dit, vous vivez avec cette espérance. Le monde et ses standards sont ce qu'ils sont, mais vous, vous avez une espérance qui les dépasse. Ça ne devient pas plus facile, parfois c'est même très dur, mais ça nous donne une espérance en Jésus-Christ. Et Paul, il fait pas du sensationnel ni du sentimentalisme, vous savez. Paul, il annonce l'évangile clairement, tel qu'il est. Il cache pas les faiblesses des hommes, mais il rend gloire à la grandeur de Dieu. Il dit pas, vous allez vivre des choses incroyables, ça va être super. Il dit, ça peut être difficile, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand il apparaîtra, vous apparaîtrez aussi et vous régnerez. Vous avez désormais vos mains, votre vie dans les mains de Dieu. Qu'est-ce que vous demandez de plus? Ça, c'est rassurant, parce que si c'était moi-même, aux mains de ma vie, quel désastre. Un prédicateur disait, les gens ont la foi, beaucoup de foi. Et c'était il y a longtemps, c'était dans les années 80. Il interrogeait les gens qui prenaient l'avion. Parce que lui, il disait, voilà, moi je suis croyant en Jésus-Christ. Les gens disaient, oh, la foi, on s'en sert pas. Alors, comme il prenait l'avion souvent pour son métier, donc il dit, mais vous connaissez le pilote de l'avion là? Non. Vous savez s'il a son diplôme? Non. Vous savez s'il va bien mentalement? Non. Donc vous avez la foi en cet homme que vous ne connaissez pas. Vous l'avez même jamais vu. Ah, ben, il était tout perturbé. Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas pris l'avion après, il ne le précise pas. Mais il montrait à quel point les gens font confiance. D'instinct, ils vont faire confiance. Personne ne se pose la question, est-ce que le chauffeur de train, de bus, est-ce qu'il a bu, pas bu, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il sait. Et c'est souvent trop tard qu'on remarque les choses. Et derrière cette petite boutade, il voulait juste montrer que les gens croient. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Ils ont foi en des personnes. C'est lui, il sait mieux que moi. Comme les médecins, bon, on espère avoir foi aux médecins. Mais il dit, on va jamais demander. Et pourtant, quand on parle de Jésus-Christ, il faut par contre la tout prouver. C'est assez montrer cette difficulté. Et là, il est en train de dire aux Colossiens, Paul, il dit un peu la même chose. Il dit, vous avez foi, mais vous avez foi en quelqu'un que vous connaissez. Jésus-Christ s'est révélé à vous. Et vous savez que votre vie, elle est mieux dans ses mains. Et pour nous, ben, ces versets, ils traversent les siècles. Hein. Ils viennent également nous encourager à vivre notre vie pleinement en Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. Aussi certain que Christ règne, aussi certain que Christ revient. Et en attendant cette gloire, nous pouvons déjà marcher dans cette espérance. Nous pouvons garder tout ce que nous connaissons, précieusement, les yeux fixés sur Jésus-Christ, pour garder courage malgré le monde et ses nouvelles. Ah, si on regarde le monde et ses nouvelles, on déprime. Mais si on regarde à Christ, on se dit, c'est toi qui règne, c'est toi qui as tout entre tes mains. Dans ces versets, Paul, il interpelle d'une manière un peu masquée aussi le baptême. Il dit, vous êtes mort. Quand on le dit souvent, on est mort dans le baptême. Et après, les versets d'après, il va dire, vous êtes ressuscité. Donc, il marque aussi que cette vie nouvelle, elle s'est faite aussi par des signes. Et si nous sommes ressuscités avec lui, nous avons donc une vie cachée avec lui, mis à l'après, et cela nous amène à appeler Ça nous appelle à vivre différemment. Et c'est un peu le cœur de ce qu'il va développer maintenant. Il va dire, maintenant, vous savez tout ça? Eh ben, montrez-le. Parce que je peux dire que je regarde Christ, je peux dire que j'aime Christ, je peux mettre un maillot où il y a marqué Jésus est vivant. Et je le vis pas. Je suis un menteur. Et non, c'est la fin du passage, hein, les versets 5 à 8, il dit, faites donc mourir en vous tout ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté des passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolatrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Voilà, Paul, il développe pas de manière totalement absurde. Paul, derrière son raisonnement, il dit, maintenant vous regardez à Christ, qui est assis à la droite du Père. Maintenant, vous savez que vous avez une glorieuse espérance quand Jésus reviendra, vous réunir avec lui. Faites donc. Si, faites donc. Si vous le croyez, vous le faites. Si vous le croyez et vous le faites pas, c'est que vous croyez pas. Il va lier les deux, il va dire, forcément, si vous croyez vraiment. Si vous croyez, bah, vous espérez. Mais en tout cas, vous faites les efforts pour. On peut pas forcément toujours porter un masque d'apparence. Et au travers ces rappels, c'est ce qu'il dit, hein, Paul. Croyant de Colosse, nous l'avons vu, vous devez changer. Et ça doit se voir. Croyant en Jésus-Christ, vous changez. Changez d'une manière totale, d'une manière radicale. Il n'y a pas un petit changement. Alors, ça peut s'étaler sur plusieurs années pour certaines choses, mais le changement de ce qui parle là, ça peut être soudain et puissamment délivré. Paul dénonce les choses terrestres, et c'est là qu'on voit ce qu'il dit par terrestre. Quand il disait « ne vous intéressez pas des choses terrestres », là il le précise, il dit « c'est quoi les choses terrestres ?» Eh bien c'est tout ce qui est l'immoralité qui existe, que ce soit les immoralités de corps, les immoralités d'esprit, tout ce qui vient du cœur, hein. Idolâtrie, ça vient du cœur, tout ce qui vient de l'orgueil, tout ce qui n'est pas en Jésus-Christ. Il dit maintenant vous devez abandonner ces choses. Changer d'une manière, les autres autour vivaient comme ça. Et qu'on regarde aujourd'hui notre société, elle vit de la même manière. Elle est même plus choquée par l'immoralité sexuelle, par l'impureté des passions. Mes passions sont pas impures, c'est le monde qui était trop prude. Je peux faire ce que je veux, c'est mon corps. Et la soif de posséder au point d'écraser tout ce qui est autour. Quand on avait interrogé Carnegie, qui était un riche, quelqu'un qui avait fait de la richesse par l'acier aux États-Unis, il a eu son premier milliard avant 30 ans, et quand on lui a dit qu'est-ce qu'il désirait, un deuxième milliard. Voilà. C'était dit, en fait, il désirait toujours davantage. Toujours davantage. Appelé à faire mourir ça. Il dit pas, c'est la soif de posséder. Il dit pas, vous devez être tous pauvres chrétiens de Colosse et vivre dans la rue. C'est pas ça que Paul dénonce, c'est pas ça que la Bible dénonce, elle n'a jamais dénoncé ça. Elle va dénoncer cette soif de posséder. Vous savez ce que c'est d'avoir soif, hein, on a tous eu soif au moins un jour. Peut-être ceux qui ont voyagé plus que moi, dans d'autres pays où c'est pas forcément simple de boire. Mais des fois, on avait soif. Un jour, on s'est trompé, on est parti sans eau, on a fait un grand tour, je peux vous dire que là, la soif s'est étendue. Hein. On n'était pas à boire n'importe quoi. Par la grâce de Dieu, on n'est pas tombé malade, je vous dirai pas ce qu'on a bu. Mais la soif, soif de posséder. Là, Paul, il dénonce quelque chose qui n'a rien à voir avec « tiens, je fais un peu d'économie » ou « tiens, je mets un peu d'argent de côté ». Il est en train de dénoncer quelque chose qui prend au trip, et qui freine, et qui ralentit, et qui n'a rien à faire dans le peuple de Dieu. Il dit, ça, c'est les choses terrestres, il faut que vous viviez plus comme ça. Et l'immoralité sexuelle, malheureusement, d'autant de Colosses, il y avait ce qu'on appelait les prostituées du temple. Où les gens allaient tranquillement, c'était peinard pour eux. C'était pas immoral, parce que c'était pour les dieux. Et là, il allait dire, non, non, vous devez changer, vous devez marquer votre différence si vous croyez que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Si, faites. Si vous le croyez, faites-le. Il exhorte les Colossiens à ne pas se comporter comme les autres, à vivre différemment par la grâce qu'ils ont obtenue en Jésus-Christ, par la recherche de ces choses d'en haut. Et c'est ça, les choses d'en haut, elles sont à l'inverse des choses de la terre. Les choses de la terre, c'est tout ça, les choses d'en haut, c'est tout ce qu'on connaît par le Saint-Esprit. Ils sont appelés à vivre autrement, non pas pour dire c'est les meilleurs, mais pour dire celui qui les a changés est le meilleur. Pour montrer une différence entre tous ceux qui ont autour en disant « le Dieu que l'on sert est capable de me changer ». Non pas par mes forces, mais par Christ en moi. Il y a un chant qui dit ça. Si on l'aime, obéissez-lui. Il dénonce tous les croyants, toutes les croyances de l'époque et tous les courants de pensée qui sont ennemis de Dieu. Paul, il va pas lister tous ceux qui sont ennemis. Il dit, vous devez faire ça. Tous ceux qui font pas ça, ben, ils aiment pas Dieu. Il dit, vous devez parler autrement. Et le pire, c'est que Paul, il dit, ben, il va pas dire aux Colossiens, vous êtes les meilleurs. Encore une fois, Paul, il est conscient. Il dit, vous étiez comme ça avant. Mais c'est normal. Si j'interroge n'importe lequel d'entre nous, on était comme ça. Peut-être pas autant en certaines choses, et encore. Des fois, on est surpris. Un homme qui parlait, j'étais à Perpignan un jour, il a pris la parole, c'était le prédicateur du jour, il dit, ah, je sais que personne n'aime les repris de justice, et puis les gens commençaient un peu à dire, ouais, c'est vrai, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien de tuer, ouais, c'est pas bien de tuer. Puis il dit, ben voilà, moi, dans mon histoire, j'étais en prison pour meurtre. Voilà. Alors, j'espère que personne n'est parti de la salle, mais c'est pour montrer qu'il faisait partie des gens dans quand Dieu le trouve. Il n'est pas en train de dire, tous ceux qui sont trouvés, c'était des braves chrétiens avant. Non, on peut pas être un brave chrétien avant. On s'efforce d'être un brave chrétien par l'œuvre que Dieu fait en nous. Mais avant, on était des ennemis de Dieu, on marchait selon la colère. Et Paul, c'est ce qu'il leur dit. Il dit, vous étiez autrefois comme ça, vous marchiez dans ces péchés. Et je sais que quand on marche dans quelque chose, c'est difficile de changer. Et bien, il dit, si Christ est en haut, si vous aspirez aux choses en haut, vous pourrez changer. Vous voyez, il n'inverse pas. Il dit pas changer parce que Christ est sur le... Il dit, non, mettez vos regards en Jésus-Christ. Ayez cette espérance de son retour glorieux. Et comme vous avez tout ça, vous pouvez changer. Par lui. Parce que votre vie est cachée par Jésus-Christ en Dieu, non pas par ma puissance. Ah, moi, si je me mettais à changer par moi-même, ça tient une heure. Peut-être un jour, ça dépend ce que c'est. Mais j'aurais pas la force de changer efficacement. C'est dur. Et il dit tout ça, c'est la colère de Dieu. Le monde est sous la colère de Dieu. Par son immoralité, par tout ce qu'il fait qui est contre. Et dit, vous devez vivre différemment de vos contemporains. Vous imaginez quand même les chrétiens de Colosse, de Laodicée, puis les autres, ils devaient faire une différence. Alors c'est sûr, quand on est beaucoup, c'est facile, mais quand on est 50 dans une ville de 300 000, ça va être tendu. Hein. Et il dit, vous devez le faire. Tant pis. C'est ce que vous êtes appelé à faire en Jésus-Christ. Vous devez avoir un comportement exemplaire vis-à-vis de la sexualité, de la pureté, mais aussi des passions. Et des fois, c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Ces passions qui peuvent nous animer de manière très secrète. À l'intérieur de nous, des fois, on peut être tourmenté par des passions, par des difficultés à arrêter quelque chose. Il dit, cette vie nouvelle, cette identité nouvelle, elle doit se faire sortir de ce que vous étiez. Vous devez vivre différemment. Un changement radical. Il le dit, hein, verset 8, « Mais maintenant, renoncez à tout cela. » C'est à vous de renoncer. « Faites mourir en vous. » Il commence comme ça au verset 5. Tout ce qui est terrestre. Là, encore une fois, il appelle pas au suicide collectif. Hein. Non, parce que voilà, il y a des gens, on prend la Bible au pied de la lettre, et ils disent, ah ben voilà, et on tout renonce à tout ce qui est terrestre, qu'est-ce que je fais? Je fais mourir la part qui est terrestre en moi, donc je me suicide. Non, il explique ce que c'est. Il dit, tout ce qui est terrestre, c'est tout ce qui est la chair aussi. Il appelle ça la chair, tout ce qui vient de la chair, tout ce qui est pas régénéré par l'esprit. Il dit, tout ça, ça doit disparaître. Vous devez le faire mourir. Pourquoi? Parce que vous êtes ressuscité avec Christ. Donc, si vous êtes ressuscité, il y a une part de vous qui est mort. Et c'est ce qu'il les rappelle. Il dit, vous devez changer. Vous devez faire la différence. Vous devez vivre autrement à votre niveau. Vous devez vivre différemment. Et en plus, au verset 8, hein, il dit, renoncez à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Donc, il est en train de dire que même quand vous êtes entre vous, et ben même dans votre langage doit changer. J'avais déjà dit, hein, mais lors du réveil de Pays de Galles, hein, les ânes ne pouvaient plus bouger parce que il y a eu un grand réveil et les mineurs étaient tous convertis et du coup, comme ils disaient plus de grossièreté, les ânes comprenaient plus ce qu'ils devaient faire. Parce qu'ils poussaient les chariots. Et du coup, ils comprenaient plus, plus personne les tapait, plus personne les insultait. Que devons-nous faire? Ils étaient perdus. Il y avait assez ce grand réveil en 1904. Et c'est assez incroyable que ça a changé. Ça a changé au point que toute une ville s'était convertie, un pan de personnes s'est converti dans la misère qu'ils étaient, et ils ont regardé à Dieu. Et ils ont porté quand même la lumière de l'évangile. Et pourtant, autrefois, ils étaient dans l'immoralité, dans l'impureté, dans la soif de posséder. Ils étaient aussi des gens grossiers, calomnies, méchants. Et moi, j'aimerais ne plus avoir ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi pour moi, quand j'ai préparé, je me suis dit, oh là là. Autant certaines choses, c'est très facile, la soif de posséder. Là, ça va être simple pour d'autres, ça va être plus dur. L'immoralité, bon. Par contre, la calomnie, des fois, c'est facile. Ah, t'as vu ce frère comme il est? T'as vu cette sœur comme elle est? Calomnie, la méchanceté gratuite, la colère, la fureur. J'arrive en retard, je suis fâché. Et les mots qui sortent de la bouche, une fois qu'ils sont sortis, hein, c'est trop tard. Quelqu'un qui s'intéressait aux enfants, il dit, prenez un dentifrice, une pâte de dentifrice, et puis vous les mettez devant vos enfants, peut-être maintenant, faites sortir le dentifrice. Alors, vous voyez, les enfants, ils appuient, ils font sortir le dentifrice, puis il dit, maintenant, remettez-le dedans. Remets-le dans le tube. Alors, on peut pas. Il dit, c'est pareil. Tout ce que vous allez dire, une fois que c'est dit, c'est dit. Vous pouvez pas le remettre, vous pouvez pas faire ci, c'est pas arrivé. Que ça soit en bien ou en mal, en tout cas, il intéressait les enfants, il dit, faites attention à ce que vous allez dire, parce que ça va rester. Et toute cette œuvre n'est possible que parce que nous croyons. Si, faites. Si vous croyez, vous faites. Tout cela, c'est pour moi. Et je me suis dit, j'ai encore du travail. Seigneur, t'as encore du travail dans ma vie pour renoncer encore à tout cela. On le disait, la croix seule, renoncer à toutes les choses pour concentrer sur Christ, c'est encore valable aujourd'hui. Paul, ce qu'il écrit, encore valable pour notre Église. Que les chrétiens, que nous sommes ici réunis, là où nous sommes dans la semaine, nous pouvons faire la différence par notre comportement. Un comportement qui nous appelle à vivre différemment. Pourquoi tu vis comme cela? Parce que ma vie est cachée en Dieu, par Jésus. Ce sera une belle réponse. Je demande au Seigneur d'avoir l'audace de la faire. C'est valable pour l'Église de Colosse, c'est valable pour nous. Vivons autrement dans un monde qui décide de changer tous les codes. Vivons autrement selon ce que Christ et sa parole nous ont dit. C'est un appel qui traverse encore aujourd'hui tout ce que nous avons fait. Combien d'églises ont souffert de la calomnie? Combien d'églises ont souffert de la méchanceté? Combien d'églises ont souffert d'une parole dite trop vite? De l'immoralité aussi, malheureusement. Aujourd'hui, des fois, nos églises sont touchées par l'immoralité d'un responsable, de l'un ou l'autre des responsables. L'immoralité aussi d'un financier qui a commencé à se servir lui aussi. Combien on n'a pas été assez attentif à regarder à Christ, qui est assis dans les lieux célestes? Combien on n'a pas encore assez travaillé à renoncer à ces choses, à faire mourir? On le dit facilement les dimanches, mais dans la semaine, c'est parfois difficile de faire mourir notre... On est mort à la croix, mais on le reprend un petit bout. L'œuvre de la croix devrait tout changer dans nos vies. Et si elle a tout changé, alors nous sommes appelés à avoir cette nouvelle identité. On ne peut pas continuer à vivre de notre ancienne identité. Et c'est le nom de Jésus qui nous sauve. Et si nous ne marchons pas, et à chaque fois que je ne marche pas selon cette foi, à chaque fois c'est le nom de mon Dieu, c'est le nom de Jésus qui est bafoué. Et c'est ce que reprochaient déjà les prophètes à l'Ancien Testament. Israël, qui ne faisait pas ce qu'il devait faire, il dit, c'est le nom de votre Dieu est calomnié à cause de ce que vous faites. Vous ne vous comportez pas selon l'appel que vous avez reçu, et autour, les gens se moquent. Ils disent, leur Dieu est ici, leur Dieu est ça, à cause de ce qu'ils voient. Si Dieu t'a changé, ça doit se voir dans ta vie. Et je le prends aussi pour moi. Paul n'exhortait pas les Colossiens à la légère. Il avait conscience que le cœur du problème, c'est le cœur. Mais il dit, regardez à la grâce de Dieu, regardez à ce qui arrive. Vous devez changer, si vous devez changer, il faut tourner vos regards. Il y a un chant qui disait « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Il faut tourner les yeux vers le Seigneur pour changer. Il dit « Vous ne pouvez pas continuer à vivre de ce que vous étiez, sinon vous êtes condamné à faire les mêmes choses. Renoncez à ma colère, renoncez à ma jalousie, à ma calomnie. Je dois faire mourir dans ma vie tout ce qui n'est pas encore régénéré par le Saint-Esprit. Pour que je puisse moi aussi un jour être ce beau papillon. Je suis encore dans le cocon. Mais on est encore au travail. » Et Paul, il en a conscience. Il y a encore du travail, mais c'est pas parce que le Seigneur n'est pas revenu et que la gloire n'est pas complète qu'on doit rester assis en attendant. Ah ben Dieu, je réglerai tout quand il reviendra, je serai changé. En attendant, je fais ce que je veux. Non, ça c'est ce qu'on avait vu de chez les Corinthiens. Il n'y avait pas du tout ça. Il dit, vous devez aujourd'hui prouver votre identité. Moi, si je me fais arrêter dans la rue, je dois prouver que je suis français. Voilà, j'ai ma carte d'identité. Voilà, c'est mon identité. Je dois montrer. Ou si je veux voyager dans d'autres pays, il y a une carte d'identité qui prouve que je suis. Eh ben, mon caractère, ce qu'on porte en nous, c'est notre nouvelle identité, c'est la carte qu'on est sauvé en Jésus-Christ. C'est ce qu'on professe lorsqu'on se baptise. J'étais comme ça, j'ai rencontré Jésus, voilà ce que je suis. Il y a encore du travail, mais je suis en chemin. Et ça doit se voir. Notre nouvelle identité doit se voir. C'est la conclusion. Paul écrit que la nouvelle vie, la nouvelle identité doit se voir et se vivre au quotidien. N'attends pas le dimanche pour être sympa, sans jalousie, sans colère. Tout le temps. Il n'y a pas de repos pour travailler. Il y a un repos en Christ, c'est lui qui a tout pris. Mais il dit, il n'y a pas de repos pour les efforts. Vous devez maintenant travailler au quotidien dans ce qui vous freine. Mais il dit, voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a Jésus-Christ. Ils disent cela va correspondre à un profond changement, c'est le croyant qui regarde à Christ. Il n'existe pas de réelle conversion, de réel salut sans repentance. Repentez-vous de ce que vous étiez, voilà, vous étiez ça, maintenant vous ne l'êtes plus, donc vous renoncez à cela. On se repent des péchés et on renonce aux péchés. Ce qui était avant n'est plus, ça c'était le... Voilà, sans se concerter, c'était le verset d'accueil. Toutes choses sont nouvelles. Toutes choses sont nouvelles. Mais c'est une réalité, c'était déjà une réalité du temps de Colosse, c'est une réalité aussi aujourd'hui. Je ne suis pas l'homme que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et je remercie le Seigneur de ne pas être ce que j'aurais pu être. Parce qu'on se connaît. On connaît notre cœur, on sait ce qu'on était, et on peut dire, wow, Seigneur, merci du chemin parcouru et de ce qui reste à faire, je te fais confiance. Et c'est ce que Paul exhorte. Vivre différemment par la grâce de Dieu dans nos vies. Le faire avec sa force. C'est un encouragement à persévérer. Pourquoi ? Pour la gloire à venir. Une gloire plus grande, plus magnifique que ce qu'on pourrait comprendre. Tout a l'air bien ici, mais c'est parce que c'est la seule chose. Dans un des dessins qui est humoristique, qui est fait dans un livre qui s'appelle « La théologie pour tous », il y a deux poissons qui discutent et il y en a un qui dit « Tu sais qu'il existe un monde en dehors de l'eau ?» Où il y a des gens qui y existent. Et puis t'as un autre poisson qui fait n'importe quoi. Un monde en dehors de l'eau, pourquoi faire ? On est limité par notre propre expérience. Mais il y a quelque chose qui vient dont nous ne connaissons que peu. On en connaît quelques arts par le Saint-Esprit des merveilles de Dieu. Et dit ça, ça vaudra plus que tout le reste. Renoncez maintenant pour ne plus être sous la colère de Dieu. C'est un encouragement à changer, un encouragement à persévérer dans tous les aspects de notre vie. Nos passions, nos envies, notre bouche. Jacques dira à la langue d'y faire attention. Et pour finir, je laisserai seulement du coup ce bref encouragement, c'est ce que j'ai résumé, c'est ce que je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est ce que la Bible nous dit. Mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ, ce que dit Paul. Faites donc mourir tout ce que dans votre vie appartient à la terre. C'est un résumé du baptême, hein. Vous êtes ressuscité avec Christ, donc tout ce qui était avant, on l'a laissé dans l'eau, hein, comme on dit. Si vous êtes ressuscité, faites donc mourir. Faites donc mourir. Nous appartenons à Jésus, nous devons mourir de tout ce qui est de la chair pour vivre selon l'Esprit. Et nous porterons alors fièrement cette fière identité, car Christ seul me suffit. Ça, c'est la grande passage du Corinthien. Et nous savons qu'on garde courage. Pourquoi ? Parce que l'espérance, elle n'est pas en nous. Elle n'est pas aux hommes politiques d'aujourd'hui, elle n'est pas en l'ONU, elle est en Jésus-Christ. Et lui, il revient. Aussi certain qu'il règne, aussi certain, il revient. Si Christ suffit, Christ doit se voir dans ma vie, c'est l'encouragement que Paul donne. Je vais seulement terminer par la prière.